Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en public au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour Un masque et la plume, consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec les reines et les rois de la critique, Fabienne Pascaud de Télérama, Armel Hélio du Figaro, Vincent Josse du Grand Atelier du Dimanche, que vous suivez, j'espère, comme moi, quand ce ne sont pas des diffusions, avec Jacques Nerson de l'Obs pour parler ce soir précisément de la Nuit des Rois de Shakespeare, d'après la répétition de Bergman, de Scorpio au loin, de Misery, de Stephen King, de Tu te souviendras de moi, du fameux prénom, et enfin de Je parle à un homme de Jacques Gamblin et du navigateur Thomas Coville. Dans le courrier de la semaine, Bénédicte Catlama s'offusque. Comment avez-vous pu démolir la mise en scène par Emmanuel Doma de l'heureux stratagème de Marivaux au Vieux Colombier? Elle est sobre, elle contribue à mettre en valeur la grande qualité du jeu des comédiens. Solveig Lio de Paris et son mari sont sortis enchantés du même heureux stratagème.
Mais on en a dit
au
du
Vieux
bien.
Co.
Ça dépend
pas
qui.
Non, 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 on n'a pas non. Aimé la scénographie et les chansonnettes.
Le metteur en scène a réussi le pari de monter une pièce moderne tout en gardant intacte la langue si belle de Marivaux, hormis bien sûr les passages en anglais. Les acteurs sont remarquables, ça c'est vrai, Claire de la Rue du Camp, Laurent Lafitte, Julie Sicard, Manon Mia est furieuse des propos de Jacques au sujet de la pièce de Simon Abkarian, Le dernier jour du jeûne et l'envol des cigognes au Théâtre du Soleil. Il nous annonce dès le début qu'il a détesté, tout en nous signalant qu'il a vu Le dernier jour il y a 3 ou 4 ans. Nerson oubliait qu'une des règles du théâtre est d'être un art vivant. En 4 ans, tout bouge, tout vit. Vous aussi, vous bougez, monsieur Nerson. À peine. Hein. J'ai aimé le spectacle, un des plus beaux, nous dit cette auditrice, un des plus beaux qu'il m'ait été donné de voir cette année. Il est nécessaire, risqué, généreux, transpirant, féminin, jubilatoire, intelligent, populaire. Il ne s'adresse pas à l'esprit, mais à l'âme. Mais Nerson n'a pas d'âme. Philippe Chavernac a suivi quelques conseils du dernier masque théâtre, notamment aux Poches Montparnasse, Dialogue aux Enfers, entre Montesquieu et Machiavel, du théâtre intelligent, mais il faut être en forme, car cela vole à haute altitude. Et justement, Philippe Mana Carmel a été stupéfait d'entendre Armel Hélio recommander chaudement le dialogue de Machiavel et de Montesquieu aux Enfers de Maurice Joly, mise en scène donc dans ce théâtre de Poche Montparnasse par Marcel Bluval, en ajoutant, je cite, que, donc c'est Armel dans le texte, que tous les hommes politiques d'aujourd'hui devraient écouter ce texte. Or, chacun sait, nous dit Philippe Manac, que ce texte à peine remanié a servi de base à la rédaction du sinistre protocole des sages de Sion, prétexte des pires pogroms du tsar Nicolas II, puis ensuite livre de chevet d'un certain Adolf Hitler.
Alors, je le sais, j'aurais peut-être dû le rappeler, je le sais, le théâtre de Poche Montparnasse le précise dans le programme, tout le monde le sait depuis que ce texte a été porté à la scène, et notamment par Pierre Freinet dans les années 50, lui aussi le rappelait. Mais je ne suis pas d'accord avec le terme de notre auditeur quand il dit « à peine remanié ». Et je pense avoir précisé que le texte a complètement été repris pour aujourd'hui par Marcel Bluval. Et c'est dans cet esprit-là que je disais les hommes politiques feraient bien d'aller écouter parce qu'il y a des réflexions très fortes.
Enfin, est-ce qu'ils vont encore au théâtre, les hommes politiques?
Ah ben, Macron et Madame sont allés voir Fric Frac.
Ah ben, c'est bien. Je ne sais pas si c'est l'inconscient qui parle. allez, la nuit des rois ou tout ce que vous voulez de Shakespeare, mise en scène à la Comédie-Française, c'est jusqu'au 28 février. Par l'allemand Thomas Ostermeyer, le patron de la Schaubühne à Berlin, dont on n'a pas oublié le Richard III très rock au Festival d'Avignon, c'était il y a 3 ans. Et cette Nuit des Rois est encore plus osée pour représenter cette comédie sur le travestissement. Ostermeyer habille les comédiens en slip et boxeur, il les fait danser sur une passerelle assez longue,
étroite,
qui enjambe les fauteuils d'orchestre. Moi, j'étais à la corbeille, donc ça allait. Il augmente la pièce de Sailly sur le règne de Jupiter Ier. Alors là, Moi, le soir où j'y étais, il faisait rimer Christophe Colomb et Gérard Colomb. Je crois que ça change
très peu.
Tous les soirs,
ça
non
change ça soir. Change très peu, non, ça change très peu. Ah bon. Parce que j'ai beaucoup d'amis du journal qui sont allés voir la pièce et c'était les mêmes plaisanteries sur
Macron.
J'ai traversé la place Colette.
J'ai
traversé un bois de bouleau.
Il déverse des tombereaux de merde sur la tête de Malvolio, c'est Sébastien Poudreau. Il donne libre cours, bien sûr, aux délires éthyliques des chevaliers Laurence Tucker et Christophe Montenez. Il y a de la musique baroque. Avec un théorbe, avec une voix de castrat qui est très belle d'ailleurs, je trouve, même si c'est en alternance. Et puis il y a ces deux grands chimpanzés qui ont beaucoup choqué Jacques sur une scène plantée de deux palmiers en carton qui ne sont pas le comble
du luxe. Un peu poussiéreux, ouais. Hein.
Mais vous avez compris à quoi servaient ces chimpanzés, vous ?
De toute façon, je n'ai pas fini mon résumé. Donc la traduction de cette pièce écrite en 1600.
C'est une façon de se défiler comme une autre.
Qui annonce la question du genre, a été confiée à Olivier Cadio. Alors c'est en prose, il faut le dire, hein, et pas en alexandrin. Et on a moins le sentiment d'être français qu'au Théâtre du Globe à l'époque de Shakespeare. Ça dure 2h45. Denis Podalydès et le duc Orsino, Adeline Dermy et la comtesse Olivia, Georgia Scaliette, dont on va reparler ce soir dans un autre spectacle, est Viola déguisée en Césario, et Julien Frison, son frère jumeau. La presse, à part Fabienne et moi, était très sévère pour ce spectacle que, c'est vrai, que je ne cache pas avoir beaucoup aimé. Jacques ?
Moi, je vous ai posé une question et j'y reviens. Vous extasiez sur ces deux chimpanzés qui font penser un peu au début de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais je voudrais savoir à quoi ça
rime. Le principe du spectacle,
ça correspond à quoi ?
Si vous permettez, Jacques. Le principe, c'est une folie un peu transgenre qui emprunte à la fois à la Fashion Week et à la Gay Pride. Et donc, il faut entrer dans une folie dont, à mon avis, les chimpanzés sont les prétextes.
Vous les trouvez très drôles ?
Bah, ça montre aussi.
Vous n'allez pas passer l'émission à poser des questions. Moi, je suis
l'animalité,
l'animalité,
la sensualité, voire la sexualité qui baigne le spectacle. Et ça amorce le mauvais goût qu'il y a aussi dans ce spectacle.
Alors, gardez la parole, puisque vous l'avez, vous parlez très bien, Fabienne.
Pour moi, c'est le spectacle de la rentrée et le plus beau spectacle que j'ai aimé parce qu'il m'a interrogée. Je me suis interrogée, j'étais pas totalement séduite, je me disais, Dieu, que ces costumes.
T'avais l'air quand même très circonspecte.
Mais oui, mais justement, si ce spectacle.
Il faut pas dénoncer les attitudes.
Spectacle m'a troublée. Les costumes m'ont troublée, je les ai trouvés d'une rare laideur.
Quand il y en a,
ils sont souvent en slip. Les slips à poche, enfin bref. Mais tout ça participe d'une volonté de tout casser, de tout chambouler qu'a Thomas Ostermayer et que devait avoir cette pièce qui a été écrite en 1602, si je ne m'abuse, au moment du carnaval. Un moment de transgression absolue. Et cette pièce, elle est totalement transgressive tout le temps. Les hommes.
C'est au moment de l'épiphanie, pardon. C'est pour ça que la pièce s'appelle comme ça. C'est à cause des rois.
Oui,
mages.
Mais l'épiphanie amène le carnaval, Jacques.
Oui,
bonne tradition chrétienne. Ouais. Donc, ce moment de pure transgression jouissif où tout le monde est par-dessus tête, comme dans la société du temps. Ostermayer rappelle au début que c'est le moment des grandes découvertes de Galilée, de Copernic. Donc, les gens sont complètement fous. Ils ne savent plus où ils habitent. Les hommes peuvent aimer des hommes. Il y a un couple d'homosexuels qui s'aiment farouchement. Tout le monde se déguise. Du coup, les relations sont complètement perturbées par ces déguisements. Donc, la pièce, elle ose, bien 4 siècles avant Judith Butler, raconter que le genre...
Mais
c'est
pourquoi
quelque
Judith
chose
Butler
c'est la grande
dans cette pièce, on
mais
dit qu'un homme...
Qu'elle est citée dans le dossier.
Mais non, Armel, c'est ça qui est formidable dans cette pièce. C'est qu'on a... Shakespeare raconte que le genre se construit, qu'on peut aimer indistinctement des hommes et des femmes, que tout ça est
le sens
une
de la
tradition
finale,
culturelle.
La scène finale.
Bah, les Grecs,
ça n'est quand même pas une œuvre. Ça n'est pas une œuvre. Pardon, ça n'est pas une œuvre majeure de Shakespeare, quoi que vous en disiez.
Là, elle devient majeure.
Non, elle ne devient pas majeure. Elle l'a jamais été. C'est une farce. C'est pas la meilleure pièce de Shakespeare. Et c'est pas non plus la meilleure mise en scène d'Ostermayer.
C'est
loin d'être la meilleure mise en scène d'Ostermayer. On ne retrouve pas ici l'inventivité folle et la violence qui nous avait tant
mais
plu dans Richard III.
S'il n'y a pas d'inventivité, il va même jusqu'à casser l'espace de la comédie française.
Il y a un amoncellement. Si vous me laissez parler, ça serait quand même plus agréable. surtout que je vous ai laissé parler, quand même. Mais il y a un amoncellement de choses complètement inutiles, de gags à côté. Moi, je suis désolé, mais voir des gens en slip, des acteurs en lady systématiquement, ça me fait pas rire. Je suis désolé. Si vous en êtes encore à rire de ça, bon, c'est très bien pour vous, mais enfin, bon, moi, je réclame un peu plus de choses. Et puis, surtout, il y a un problème, à mon avis central, c'est que Sébastien Poudrou.
Qui en prend plein la, si j'ose dire, la gueule. Hein.
Mais non, mais c'est un bon acteur, la question n'est pas là. Mais ça n'est pas un comique. Or, c'est quand même...
Il est formidable
dans
cette pièce.
Le personnage est comique. Et je vous dirais que je me souviens d'avoir vu à la télévision Jean Le Poulain ça passait à la télévision. C'est comme ça que j'ai vu la pièce pour la première fois. Et ça m'avait fait énormément rire parce que
Pierre Poulain faisait le pitre
et qui pouvait être très drôle. Et là, Poudrou n'est pas drôle du tout.
Vincent.
Je trouve très sévère avec les comédiens. Je trouve qu'au contraire, c'est la fête des comédiens, cette pièce et ce spectacle par Ostermeyer. Visiblement, il a été émerveillé.
Tu trouves Denis Podalydès vraiment très drôle?
C'est pas le plus intéressant des comédiens, mais quand tu cites Poudrou, pour moi, là, il explose dans cette pièce. J'aime bien les fils, le rapport au corps.
Stoker et Montaigne. Sont très
Stoker sont très bien. Montaigne ressemble à Iggy Pop, complètement défoncé. Les filles sont formidables. Scaliette en tête. C'est une fête des corps aussi. Et ça, on ne le montre pas toujours, le corps des comédiens. Là, il fait avec eux.
Oui, on montre le bas.
Mais oui, mais ils sont beaux.
Enfin,
c'est la fête
corps,
des slips, des seins, des fesses.
Non, c'est pas vrai.
C'est une fête et c'est quelque chose qui tient
de
la farce.
Il y en a qui supportent bien
Ça ne devrait pas.
Je trouve qu'il y a,
s'il vous plaît,
un excès avec eux qui est formidable parce qu'ils peuvent tout faire, ces comédiens du français. On le dit assez souvent que la troupe a été renouvelée et qu'elle est actuellement formidable. Pour moi, c'est vraiment un bonheur d'acteur. C'est du grand théâtre d'acteurs. En revanche, je suis un peu plus réservé sur la mise en scène d'Ostermeyer que je trouve illustrative. Ce que tu dis sur le genre, sur la confusion des sentiments, etc. On le voit pas tellement parce qu'on est dans le carnaval et on sort pas de cette illustration du carnaval.
Non, je trouve pas que ce soit en permanence. Du haute contre
elle est excessive. Là aussi, il en fait un petit peu trop, comme s'il était émerveillé d'être au français avec les acteurs qu'il a. Il en fait trop, Ostermeyer, et je le retrouve pas.
Je suis d'accord. Mais il faut savoir qu'il est snobé par
oui,
la comédie française.
Et du coup, il déborde.
J'oubliais de dire que la salle est presque constamment allumée, ce qui fait qu'on a vraiment le sentiment de participer au spectacle proprement dit.
On participe
Armel.
Aussi dans le noir. Mais
écoutez, je crois que j'ai même plus envie d'en parler. C'est loin dans ma tête. Je suis absolument pas d'accord avec les personnes qui défendent ce spectacle parce que je pense qu'il s'appuie sur des raisonnements un peu gauches, pour ne pas dire bêta.
Merci.
Thomas Ostermeyer. Non, mais je parle de Thomas Ostermeyer. Je parle pas de vous. Le sentiment qu'on peut avoir devant un spectacle, il est respectable, mais. J'ai beaucoup parlé avec lui. C'est un être d'une intelligence qu'on n'a plus à discuter, qui aime le théâtre, qui était heureux d'être à la Comédie Française. Mais je crois que c'est surtout les comédiens français qui étaient heureux d'avoir enfin Ostermeyer. Et donc, par exemple, pour expliquer les costumes qui sont vraiment moches et qui n'aident pas les acteurs, il explique que d'abord il avait pensé à faire du maquillage des corps entièrement, qu'ils soient maquillés entièrement, déguisés et tout ça, par la peinture. Et évidemment, ça coûte beaucoup trop cher, donc il a renoncé à ça. Et donc après, il vous dit, vous comprenez, là-haut, ils sont habillés parce que c'est l'esprit, c'est la tête, et en bas, ils sont tout nus parce que c'est le sexe, c'est les forces de la sexualité, de la sensualité. C'est stupide, parce que justement, le sexe, ça se passe aussi dans le crâne, et surtout chez Shakespeare. Cette pièce, on l'a vue, mais très souvent, merveilleusement jouée, dans l'ambivalence, justement. Moi, j'ai vu au moins 10 fois, alors je sais bien que j'ai 70 ans bientôt, mais enfin, quand même, j'ai vu Ariane Mouchkine, j'ai vu à la Comédie Française, Andrzej Séverine,
Mais vous l'avez pas vu à la création, quand même, rassurez-moi.
Non, mais je me demande si dans une autre vie, je n'ai pas été un petit puck calé chez Shakespeare au Globe. Absolument. En tout cas, moi, j'ai vu, par exemple, Ludmila Mikhaïl, dont on va parler tout à l'heure. Ludmila, qui est la féminité même, et là, j'ai vu Audrey Bonnet, qui sont la féminité même, mais habillée en garçon, avec un pantalon, elles étaient beaucoup plus troublantes que la merveilleuse Georgia Scalier avec ses petites cuisses dodues de fille.
Oh,
il
n'y
a plus d'odus
jolie.
Mais c'est la vérité. Évidemment qu'elle est ravissante. Ces cuisses dodues.
Merveilleuse
tu
aussi.
Tu peux pas croire que c'est un garçon. Tu vois arriver une fille en...
Le fait même ça fait partie de la mise en scène d'Ostermeyer.
Mais non, il veut pas du tout faire ça.
Et c'est positif de nous mettre un courant d'air dans la tête.
Quand Ostermeyer et Cadio ose dire « cette pièce n'a jamais été bien traduite, l'homosexualité y a toujours été refoulée ». Mais c'est scandaleux. Moi, j'ai vu, par exemple, les traductions de Jean-Michel Desprariennes, pour citer celle-là. Non, mais bon. Spectacle. Et alors, on l'autre chose, c'est le traitement de Malvolio. C'est scandaleux, la façon dont il traite Malvolio. Il n'est pas du tout écrit comme ça, Malvolio. Et je suis d'accord avec Jacques, c'est un personnage comique, qui fait rire, mais rire à outrance, et qui est malheureux.
C'est un personnage il est juste tragique.
Bon, allez, s'il vous plaît, on arrête. On arrête.
Et les comédiens, ils sont formidables. C'est la nuit des rois. Ils sont ivres de travailler avec Ostermayer.
De Shakespeare à la Comédie Française. Vous avez le temps, c'est jusqu'à fin février. Et si vous avez envie de passer une bonne soirée, surtout, n'hésitez pas.
Vous n'êtes pas un animateur
Scorpio Soloin, justement, Armel, du nom de Lille. Donassi, c'est une pièce de l'actrice Isabelle Lenouvel, on peut dire aussi que c'est l'épouse de Nils Sarastrup, puisque c'est officiel, qui se donne au bouffe parisien dans une mise en scène de Jean-Louis Benoît avec Nils Sarastrup qui endosse le costume blanc de Churchill et justement cette Ludmila Mikhaël qu'on ne voit pas assez, non, me semble-t-il, au théâtre, et là qui cache ses beaux yeux derrière les lunettes noires de Greta Garbo. C'est l'été 59 en Méditerranée, en fait, sur le quai de Monaco, à bord du yacht d'Odassis, où se trouvent Maria Callas et Churchill, et où débarque donc à la dernière minute Greta Garbo, qui arrive de Rome. Après, il se passe pas grand-chose, je dois avouer, lors de ce face-à-face à ciel ouvert entre le vieux lion et la divine, entre deux grands retraités de la politique et du cinéma. J'ai oublié de préciser que dans le rôle du majordome, il y a Baptiste Roussillon. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec...
Oui, oui, c'est le fils.
Ah, c'est le fils du merveilleux Jean-Paul Roussillon, que nous avons tant aimé aux Français.
Il est formidable.
Je ne comprends pas très bien le sens de cette pièce, mis à part, évidemment, comme toujours, on le voit ça beaucoup au théâtre, le face-à-face de deux personnages historiques à une époque déterminée. Armel ?
C'est très ténu, effectivement. J'ai pris beaucoup de plaisir, moi, cet été, à lire cette pièce. Je l'ai trouvée vraiment... très bien écrite, délicate, et je trouvais l'idée très intéressante. C'est Nils Sarastrup qui, en lisant une biographie, s'est rendu compte qu'il y avait eu ce... Ils s'étaient croisés sur le pont de...
Bon, ils se sont croisés.
On ne sait même pas s'ils se sont parlés.
Oui,
en fait.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Mais ça ne fait rien, l'idée est très jolie. Mais alors, évidemment, c'est très délicat, parce que, autant en plus... Alors, il y a ce déséquilibre-là aussi... Arestrup ressemble un petit peu physiquement, il se fait le corps un peu tassé comme ça, d'un vieux lion, et elle est trop féminine et trop belle, au fond, pour ressembler à la Greta Garbo de cette époque-là, qui est vraiment maigre, cachée.
Mais ce n'est pas très grave, Armel, tout ça. Non, on ne demande pas aux comédiens de ressembler forcément.
Il manque un petit...
Surtout ce que ça veut raconter.
Il manque un petit effet.
Ce n'est pas le problème. Il manque une crise, il manque de l'action,
voilà,
il manque quelque chose.
C'est ce
qu'aurait fait très bien Briseville à l'époque. Il faisait beaucoup de spectacles.
Exactement, Briseville avait un sens du théâtre. Briseville avait le sens du théâtre.
Du théâtre historique.
Absolument. Non, mais il manque, c'est sûr que ça manque.
Il manque l'essentiel, il manque une colonne vertébrale. Il ne se passe rien sur
peut-être
ce bateau.
Que si ça
ils
se
échangent
jouer
des
dans
grâces.
Un plus petit lieu,
il se passe une chose.
Mais Armel, dans un petit lieu, il ne se passerait pas plus de choses.
Jacques,
c'est pas
il se passe
question.
Une chose.
C'est une mauvaise pièce. C'est une mauvaise pièce, et même pas une pièce du tout. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu un directeur, un producteur, des acteurs pour la jouer.
Parce qu'elle
est pas mal écrite, apparemment. Mais enfin, quand une pièce n'a pas d'action. Ça s'appelle une mauvaise pièce. Et très vite, on a envie qu'il y ait un sous-marin
c'est
qui
que
coule
sur
ce bateau.
C'est sur le sentiment. Oh,
peut-être, oui. Peut-être pas juste là.
Oh, non, mais c'est sur le
ça
sentiment.
Nous est pas, ça nous permettrait de...
T'as pensé à ça pendant la pièce,
Fabienne? Il y a des pièces qui ne jouent que sur le sentiment.
Moi, je défends les pièces où il ne se passe rien, hein, parce que dans Pinter, il ne se passe pas grand-chose. Il peut, l'action ne veut rien dire. Non, mais ce n'est pas du Pinter, parce qu'il n'y a pas de langue, il n'y a rien. Isabelle Lenouvel, c'est une actrice qui a un petit brin de plume.
Pièces, déjà.
Oui, mais enfin bon, moi je trouve qu'il y a... J'ai passé un bon moment quand je l'ai vu, c'est ce que disait Armel, mais il ne me reste rien après. Là,
c'est
je
embêtant.
Me souviens... voilà. Et j'ai trouvé... Alors, on vient de parler de la Comédie Française, mais alors ce théâtre-là, les acteurs, même Nils Sarastrup, même Ludmila Mikhaël, mais ces vieux genres, ils sont poussiéreux.
Oh, ils
jouent comme on jouait il y a 50
non.
ans, avec des trucs, des tics, des ficelles. Ils se mettent pas en danger. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un théâtre poussiéreux.
Mais ils sont même pas en slip, en plus.
Et en plus, ils sont même pas en slip.
Je comprends que ça beaucoup plus drôle.
Vincent. Non, je suis d'accord avec mes camarades. C'est une pièce avec une intention qui est louable. C'est même assez ambitieux d'avoir envie d'écrire une histoire dont on ne connaît rien et de se mettre à inventer. Mais effectivement, quand on invente, il faut un minimum d'action ou de la pensée. Il n'y a rien de tout ça. Il y a une action, je te le disais tout à l'heure, Jacques, c'est quand Churchill, Harry Strupp s'approche de Garbo Michael et lui dit « Je veux voir vos seins, montrez-moi vos seins ouais. ». Et elle s'en va et finalement elle quitte le bateau. Bon,
elle répond même pas.
J'étais gêné, moi, comme spectateur à ce moment-là. Alors, j'ai plutôt apprécié.
Il paraît que c'était un vieux libidineux quand il buvait trop de whisky.
Je pense qu'il a demandé ça.
Il buvait plusieurs litres de whisky par jour.
Effectivement, c'est la seule action de la pièce et ça suffit pas.
Il avait déjà eu son AVC.
À faire venir des gens.
Tout de suite, il n'y a pas d'action.
Là, vous donnez de plus en plus envie aux gens.
D'autres pièces.
C'est dommage en même temps. Bon, allez, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec Fabienne. Je trouve quand même que c'est deux grands acteurs et trois même grands acteurs.
Chacun dans leur genre.
Trois grands acteurs.
Chacun dans son genre. Scorpio Soloin, c'est donc Isabelle Lenouvel et c'est au Bouffe Parisien. On va rester un peu en mer, mais rapidement si vous le voulez bien. Et avec Je parle à un homme qui ne tient pas en place, comme Vincent Josse. C'est au Rond-Point, c'est à 18h30 et c'est le nouveau spectacle de Jacques Gamblin. Où il est seul en scène et pieds nus pour raconter les courriels qu'il a échangés en 2014 avec Thomas Coville, quand, sur son trimaran de 31 mètres, le navigateur solitaire a tenté pour la quatrième fois le record du tour du monde à la voile. Cette année-là, ça n'a pas marché. Coville a dû renoncer. Mais je rappelle quand même qu'il a gagné son pari en 2016 et en 49 jours. Ça, je crois que tu aurais du mal à le faire. Ça se joue jusqu'au 18 novembre, je le disais, au Rond-Point. Et puis après, c'est en tournée en décembre à Vannes, à Dinan, en janvier à Grand-Figeac, Millau, après en Suisse, Vevey, Morges, avec retour au 104 en mars prochain. Ce qui m'a troublé, c'est ces courriels, quoi.
Il n'y a pas de réponse.
Mais c'est surtout que ça n'a pas grand intérêt, quoi.
Ah bon ? Mais tu ne vois pas comme ça a soutenu le navigateur. C'est peut-être pour ça qu'il est encore en vie.
Mais je m'attendais à une relation fraternelle, quelque chose de...
Mais c'en est une, c'est une amitié virile. C'est sublime de raconter une amitié comme ça.
Alors bon,
c'est Montaigne et la Boétie, c'est parce que c'était lui.
Montaigne et la Boétie.
Ça m'a subjugué ce rapport.
Montaigne et la Boétie, c'était peut-être un petit peu mieux écrit. Que ces courriels sont nullissimes.
Alors, Vincent, c'est nullissime. Alors, moi, j'ai été complètement emporté par ce spectacle. Oui, par le talent de Gamblin, par cette complicité.
Alors, tout est vrai, tout est vrai.
Oui, tout est vrai. Par cette complicité entre ces deux hommes, par le fait que Gamblin ne sait pas s'il est lu, si Coville reçoit les messages.
Pas du tout une correspondance,
alors, il lui écrit, puisqu'au départ, il est dans la compétition, donc il l'encourage par ses mots, etc.
À terre et l'autre en mer, voilà.
Et l'homme à terre se rend compte, comme nous tous qui suivions, ou pas, c'était pas mon cas, la course, qu'il a échoué et que donc il revient, Coville, vers la terre. Et à ce moment-là, la relation change, il est plus dans l'empathie. Il l'encourage, il essaie de le tenir, il imagine que l'autre n'est pas loin du gouffre. Et effectivement, Coville, quand il répondra, lui dira « Mais tu m'as tenu debout, si je suis en vie, c'est en partie grâce à tes mains ». Donc cette totale sincérité entre ces deux hommes-là, moi, m'a bouleversé vraiment, d'autant plus que...
Bouleversé.
Ah oui, j'ai été très, très emporté, moi, par ce spectacle. Modeste, sans prétention.
Oh non, pas modeste, il y a un décor énorme.
Mais le décor est modeste. Magnifique.
Et puis, c'est pas modeste de publier ça.
La manière de nous
ça.
Montrer la
c'est
carte d'atmosphère, le trajet de Coville.
Il faut peut-être préciser quand même qu'on peut lire.
Il y a le texte aussi, oui.
Effectivement.
Aux éditions. Alors,
correspondance inédite, Équateur littérature.
Mais la scénographie est superbe.
On rêve.
Il y a des flots comme ça qui bougent peints façon Barcello. Il y a la caméra GoPro accroché au bateau qui nous montre Coville tout seul face au gouffre,
ça,
là, justement.
C'est extraordinaire, ces images.
Et puis cet homme qui s'est bougé, qui s'est dansé, c'est presque une sorte de navigateur avec les mots. Non, c'est
très
émouvant.
Moi, je trouve ça indécent, parce que c'est très pauvre, et que bon, je comprends très bien qu'on s'envoie des mots d'amitié, etc. De là à les publier et de là à en faire un spectacle. En plus, dans cette correspondance, ils ne cessent de se dire l'un à l'autre du bien. Enfin, ils se congratulent sans arrêt. Et ce sont pas des imbéciles ni l'un ni l'autre, mais franchement, par moments, ils ont l'air bêtes. Ils s'adorent l'un l'autre et ça n'a strictement
c'est pas vrai,
intérêt.
Ça parle de l'acteur aussi,
alors là,
de l'acteur seul en scène. Jérôme,
mais moi, je me suis ennuyé pendant ce spectacle de façon extraordinaire. Je trouve que c'est d'une pauvreté intellectuelle, c'est d'une pauvreté littéraire totale.
Armel,
j'ai été assez bouleversée par ça.
Je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que...
Vous avez passé une bonne soirée ?
Oui. Même si j'ai été étonnée de constater que Thomas Coville était très peu présent, puisqu'il a autre chose à faire que répondre à des courriels, il faut bien le dire, le pauvre. Et quand on voit les images de cette folie, cette solitude au milieu de l'océan déchaîné, c'est incroyable. Bon, et je voudrais défendre Jacques Gamblin, auteur, parce que là, comme c'est vrai. Évidemment, quand il écrit à un mec qui est perdu dans l'océan...
Je m'en fiche que ce soit vrai, il faut que ce soit intéressant.
Non, mais ça allait. Il écrit pas, il fait pas d'effet. Mais je vous rappelle que Jacques Gamblin, il est l'auteur de Quincaillerie.
Bien sûr qu'il a écrit beaucoup d'autres livres, bien sûr. Ça n'a rien à voir, Armelle.
Mais si, je veux pas qu'on dise qu'il écrit mal, c'est pas vrai. Il a une vraie relation à l'écriture, cet acteur.
C'est pas ce qu'on dit du tout, il a écrit très bons livres. On se pose la question de savoir si ces textes, ces courriels ont vraiment de l'intérêt et tout.
Mais oui, pour moi, ça fait un spectacle. Parce que ça déclenche.
Pour moi, ça fait un spectacle. Et donc, c'est vrai qu'il le soutient.
Ah oui, complètement, il le porte.
Il le soutient. Son routeur lui dit « méfie-toi de ton courage » et pour l'inciter à abandonner, pour pas qu'il continue et qu'il aille se fracasser dans les glaciers. Et c'est vrai, c'est de la virilité, c'est de l'amitié virile, c'est de l'amitié de marin.
On peut être viril et avoir du talent.
Gamblin, ben il a du talent.
Ah non, pas de talent
mais
littéraire.
Mais si,
non.
Ça, c'est ils des ont, mecs, hein. Il y en a un, ils ont tous les deux, de toute façon, c'est, enfin, Coville n'en parle pas,
allez,
il est hors norme.
Fabienne, s'il
vous
plaît.
Moi, j'ai aimé cette amitié virile-là, justement, parce qu'on a rarement l'occasion de la voir aussi franchement. Il ne parle pas du tout de femme. On a l'impression qu'ils n'ont pas de compagne.
Il parle de sa fille, Gamblin.
Gamblin parle de sa fille, mais pas de ses amours. Coville non plus.
Non, ils sont
et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir par des mots tout simples, des mots qui peuvent vous sembler tout bêtes, Jacques, ce qu'il arrive à faire chez Coville. C'est-à-dire que Coville raconte pourquoi il prend la mer. Parce qu'il se sent médiocre, parce qu'il se sent nul.
Oui, ça parle de l'échec.
Parce qu'il fuit l'échec, parce qu'il se fuit lui-même. Et ça, arriver avec des mots de rien, à déclencher chez l'autre des aveux comme ça, et chez l'autre une reconnaissance de soi, moi, je trouve ça magnifique.
Eh bien, c'est donc « Je parle à un homme qui ne tient pas en place ». Et c'est donc Jacques Gamblin. Et je vous le disais, c'est au rond-point et ensuite en tournée jusqu'à l'année prochaine en France et en Suisse. « Misery » de William Goldman au Théâtre Héberto, mise en scène par Daniel Benoît avec Myriam Boyer et Francis Lombraille. C'est l'adaptation, vous l'avez compris, par Victor Laszlo du célèbre roman de Stephen King, paru en 87, où un auteur de best-seller, Paul Sheldon, est recueilli après un grave accident de la route par une de ses groupies, Annie, qui est infirmière, qui est surtout bien dérangée. Apprenant qu'il a tué son héroïne préférée dans son nouveau livre, elle séquestre l'écrivain. Elle décide de le pousser par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, à ressusciter son personnage fétiche. Ce roman a été porté à l'écran, vous le savez sans doute, en 90, par Rob Reiner avec James Caan et Katie Bates. C'était d'ailleurs Lorraine Bacall qui jouait, on l'a oublié, son agent. On avait d'ailleurs vraiment la chair de poule et à la lecture et aussi en voyant le film. Là, ce qui m'a frappé, c'est à quel point il n'y a pas un moment de sentiment d'angoisse. Pas un moment, on a le sentiment
tu n'as pas
que...
frissonné.
Ah, mais pas du tout.
Non,
c'est vrai personne qu'on connaît l'histoire frissonne. Maintenant. On connaît. Fabienne.
Ah, j'ai trouvé ça très mauvais, moi. Vraiment une caricature de suspense. Alors, c'est vrai que le suspense au théâtre, c'est pas facile. Mais alors là, je pense que c'est surtout à cause de la direction d'acteur de Daniel Benoît, parce que Myriam Boyer est une excellente actrice. Qu'elle soit caricaturale, grimacière à ce point-là, c'est quand même étonnant. Et son personnage, elle a l'air d'une sorcière, on n'y croit pas une seconde. Francis Lombraille fait ce qu'il peut, ils n'ont chacun aucune ambiguïté, aucune sensibilité. Alors certes, le spectacle, c'est aussi une métaphore du lien entre un créateur et son public, l'osmose qui peut se passer ou ne pas se passer, mais ça, il ne faut pas compter non plus sur Daniel Benoît pour être un philosophe. Donc, que c'est raté sur toute la ligne.
Armel ?
Oui, ben, je n'ai rien à ajouter. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'est l'adaptation qui ne va pas aussi, en plus ? Je ne me rends pas compte.
C'est relativement fidèle.
En tout cas, ça ne fait pas un spectacle de théâtre. Quoi.
C'est
pauvre. On n'est pas ému. On ne s'intéresse pas à la progression du...
C'est à l'économie, vidéos sont nulissimes. Quand il sort de la chambre, il est avec son petit fauteuil roulant et il y a une sorte de caméra de vidéosurveillance très cheap en noir et blanc qui nous le montre dans la maison. On se dit, mon Dieu, ils n'ont pas eu un rond pour monter ce spectacle.
Mais c'est pas, moi, je crois que ce n'est pas une question de moyens.
Alors, Jacques,
moi, je crois que le
regard sur le texte.
Le genre, spectacle d'horreur, ça ne se fait plus au théâtre, parce que le cinéma le fait mieux.
C'est vrai qu'il n'y en a plus au théâtre.
Non, d'ailleurs, le grand guignol a disparu. C'est fini. Alors que le film d'horreur prospère.
S'il y avait ce
c'est un genre auquel on a...
Mais pourquoi ça a disparu? C'est à cause du cinéma, selon vous?
Le cinéma est meilleur pour nous faire peur. Il a une sorte de réalisme que le théâtre ne peut pas atteindre aujourd'hui. Peut-être qu'autrefois, ça marchait parce qu'on était plus habitué à un style moins réaliste, mais là maintenant, ça ne marche plus.
Voilà, non,
mais la Dame Blanche, ça fait peur. Mais ça ne fait pas peur une seconde, c'est de la parodie.
C'est drôle, moi, ça m'a fait un peu peur.
Attendez, parce que tout le monde ne comprend pas. C'est quoi la Dame Blanche?
La Dame Blanche, c'est un spectacle
qui a eu énormément de succès.
De Sébastien Depardy,
qui était aussi un spectacle d'horreur.
Oui, non, qui s'amusait à jouer à l'être, mais c'était de la pure parodie.
Mais les dames poussaient des grands cris.
Les gens rigolaient. Oui, parce qu'elles avaient envie de crier, mais. Non, en réalité...
On n'est pas misogyne comme l'autre. Hein.
Je n'incriminerai absolument pas Myriam Boyer ni Francis Lombaille. Je pense qu'ils sont bien. Je trouve simplement que c'est un projet bizarre de prendre ce film qui marche très bien tout seul et qu'on a vu
qui
souvent...
Qui marche toujours, je l'ai revu,
revoit,
ça. Oui, absolument, là, on a toujours aussi peur.
Et qu'on revoit avec plaisir, parce qu'il est très bien fait, et qu'il est formidable. Et là, ça me paraît surtout une entreprise un peu inutile.
Eh bien, courez voir Misery de Stephen King au théâtre Héberto. Tout le monde connaît évidemment le prénom. Là encore, on parle de théâtre et de cinéma, puisque la pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, qui se donne dans une nouvelle version, toujours dans une mise en scène de Bernard Murat, au théâtre Édouard VII. On rappelle le principe qui est connu au cours d'un dîner de famille élargi. Un jeune père, prof de lettres, annonce qu'il va appeler son fils Adolphe. Parce que Adolphe de Benjamin Constant, ce qui rend fou les autres convives, au prétexte que ce prénom fut celui de Hitler. La mèche, si j'ose dire, est allumée. Le dîner est une suite explosive de secrets soudain révélés, de règlements de compte. Et donc cette comédie qui a été créée en 2010, avec notamment Patrick Bruel, Guillaume de Tonquédec, Valérie Benguigui, est devenue 2 ans plus tard un film, réalisé toujours par Delaporte et la Patellière, avec presque la même distribution qu'au théâtre. Et la revoici, vous me suivez, hein ?
Oui.
Avec cette fois Jonathan Lambert, Florent Père, Sébastien Castro, Lilou Fogli, Marie-Julie Baupe. Donc ma question, elle est toute simple. Est-ce qu'il faut y retourner, Vincent ?
Moi, c'est la première fois que je voyais la pièce. Je n'ai pas vu le film. Et j'ai pas vu
ni la pièce à l'origine, non. Ni
donc
le film.
J'étais totalement vierge comme spectateur.
Bon, toi vierge, je demande à voir.
Et je me suis ennuyé éperdument. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas grand-chose. Il y a une idée, je l'ai formulée à l'instant, qui est de jouer un peu avec ses partenaires et de les agacer.
C'est toujours des dîners où tout
voilà,
tout,
mais on l'a déjà ressort, beaucoup vu, le thème du dîner de cons. Yasmina Reza aussi avait écrit Le Dieu du carnage, etc. Donc ce thème-là, je trouve que maintenant, ça suffit. Enfin, j'ai rien appris, j'ai pas ri, j'ai pas trouvé les personnages consistants, j'ai pas trouvé les personnages intelligents. Non, c'était une soirée pour moi très ennuyeuse, avec une certaine vulgarité. Je trouve aussi que les personnages sont vulgaires. Et j'ai pas envie de passer du temps avec eux, de les écouter. J'ai l'impression vraiment au bout de 10 minutes, de savoir ce qui va se passer, de pas voir une pièce qui évolue, qui me fait rire, qui m'amuse, qui me divertit. Non, rien de tout ça. Quelque chose d'assez insignifiant pour moi.
Et Armelle ?
Eh bien, je suis pas du tout d'accord. J'avais lu, je l'avais vu, j'ai vu le film plus tard, et je craignais beaucoup d'y retourner parce que. Ce sont des succès pris dans l'humeur du jour. Mmh. Et donc, ce qui se passait il y a, je ne sais plus quand est-ce que ça a été créé, il y a 15 ans, 10 ans.
En 2010.
Faut se méfier de ces choses-là, parce que c'est porté par un tas de choses, les acteurs de l'époque, le fait qu'il n'y avait peut-être pas d'autres comédies rigolotes à l'affiche. Bon. Et donc, j'ai vraiment traîné des pieds pour y aller. Et peut-être que si je ne l'avais pas eu au programme du Masque et la Plume, n'y serais-je pas retournée, puisqu'un de mes collègues du Figaro l'avait vu. Eh bien, moi, j'ai été, au contraire, enchantée de ma soirée. Parce que j'ai trouvé.
Une bonne soirée,
mais oui,
somme toute.
Parce que l'histoire tient le coup. Parce que, alors effectivement, c'est pas Schopenhauer, d'accord.
Non, mais ça on, mais à aucun moment, on ne
c'est une comédie très bien foutue. Hein. C'est une comédie de quadragénaire, peut-être pour les quadragénaires, ça leur plaît.
Ah, pauvres quadragénaires, qu'est-ce qu'ils vous ont fait?
Mais non, ils sont là. Au contraire,
oui,
ils aiment
pour
beaucoup.
Les quadragénaires, on peut.
Non, mais. Puisque monsieur qui.
Oui, mais on peut. Il
n'est peut-être plus tout à fait quadragénaire d'ailleurs.
Ça fait très longtemps qu'il est plus jeune, Vincent Jos. Très, très longtemps.
J'avais
oublié.
Bon, enfin bref, moi j'ai trouvé. J'ai trouvé les acteurs formidables.
Ça vaut le coup de venir, Vincent, au masque. Hein.
J'ai longtemps trouvé... que je suis pas venu, mais je suis content d'être là.
J'ai trouvé, je les ai tous trouvés très bien. Marie-Julie Beaupe, on la connaît très bien, c'est une actrice exceptionnelle. Les autres, on les voit, Sébastien Castro aussi, on le voit souvent dans du travail de troupe, et il est toujours épatant. Et Florent Père et Jonathan Lambert, qu'on voit plutôt tout seul ou faisant des imitations, qu'on voit pas en groupe comme ça, je les trouve formidables.
Fabienne.
Alors moi, pas du tout.
Pas
du tout formidable. J'ai été gênée par la distribution.
Vous connaissiez, vous aussi,
Oui, je connaissais et le film et le spectacle, où même Télérama est cité comme la sommité de la boboïtude.
Oui. Ce qui est un mensonge absolu.
Évidemment, évidemment. Donc, moi, je trouve que la pièce, le dîner, c'est un thème rabâché au théâtre. Mais enfin, c'est pas mal fait, tout ce qui se déconstruit, des relations entre les amis, entre les frères et les sœurs. La découverte que la mère a une relation avec l'un d'eux. Tout ça est bien tricoté, je trouve. Et la pièce, je serais plus indulgente que Vincent. Mais j'ai trouvé que les acteurs piaillaient, gueulaient, ne jouaient pas ensemble. C'est des acteurs de télé pour les plus grands rôles,
one-man show. Pas du tout.
À part Sébastien Castro, que j'ai trouvé plein de charme, qui joue celui que tout le monde prend pour un homosexuel et qui ne l'est pas, que j'ai trouvé plein de charme et de mystère et de fragilité, je les ai trouvés, mais ils gueulaient, j'en avais de la peine pour eux.
Pas Marie.
Jacques.
Non, mais moi, je suis tout à fait de l'avis de Vincent. C'est-à-dire que je ne comprends pas très bien pourquoi je passe la soirée avec des gens aussi peu intéressants. C'est des gens un peu médiocres qui m'intéressent
pas. Médiocres,
j'ai pas envie de passer la soirée avec eux. J'ai pas envie d'écouter ce déballage d'histoires de famille pas très propres d'ailleurs. C'est vraiment le linge sale porte bien son nom. Ah. C'est pas très intéressant. Non, j'ai vraiment mieux à
c'est
faire.
C'est passionnant le linge sale.
Passer la soirée à entendre ça. Je trouve pas ça très drôle. Les acteurs sont pas en fait, cause êtes... pour moi, à part Jonathan Lambert qui en fait toujours des kilos, mais non, c'est pas tellement les acteurs, c'est pas la mise en scène, pièce qui ne m'intéresse profondément pas.
Le prénom, c'est donc au théâtre Édouard VII, et à mon avis, c'est bien installé pour les fêtes. Sur une terrasse, très jolie terrasse en bois, genre canis bordée de roseaux, voici « Tu te souviendras de moi », une pièce du Québécois François Archambault, mise en scène au Théâtre de Paris, salle Réjeanne, toujours par Daniel Benoît. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là?
Il a des moyens, il a un théâtre à Antibes, donc il peut produire des pièces qu'il revend à ses camarades parisiens.
C'est pour ça qu'il y a autant de pièces montées par Benoît. Bref, c'est avec Patrick Chenet, Fanny Valette, Nathalie Roussel, Frédéric de Golfiem et Émilie Chenet, qui est la fille de Patrick Chenet, lequel est Édouard, qui est un grand prof d'histoire à la retraite, qui a fait sa carrière à la Sorbonne. Alors, ça a été francisé, parce que la version est un peu différente au Québec, où d'ailleurs, elle va devenir un film. Et donc, il est à la retraite, il commence à perdre la mémoire, comme Jacques, ou plutôt à mélanger ses souvenirs. Et c'est Bérénice, la fille du nouveau conjoint de sa fille, incarnée par Fanny Valette, qui est chargée de veiller sur cet homme. Le thème, il n'est pas vraiment neuf au théâtre. Alzheimer, je vous rappelle, il y a quelques temps, Florian Zeller dans Le Père, avec un Robert Hirsch... qui reste pour moi inoubliable. Moi, je suis un peu circonspect. Tu te souviendras de moi, Jacques ?
Ben moi, la pièce est sur Alzheimer, mais je me demande si elle ne donne pas des Alzheimer, parce que j'ai du mal. Il faut dire que je l'ai vue en début de saison. Et j'ai du mal à m'en souvenir, parce que cette pièce ne m'a pas intéressé. Là aussi, j'ai un problème avec le personnage que joue Patrick Chenet, c'est que cet universitaire me paraît plutôt idiot, réac dans pire sens du mot.
Pas du tout, du tout.
Oui, enfin bon, de toute façon, c'est surtout ce personnage qui n'aime pas son époque, qui n'aime pas son temps, qui critique tout. Hein. Pourquoi, là aussi, passer tant de temps avec ce type ? Je m'en fous. Je m'en fous qu'il perde la mémoire.
C'est peut-être même une bonne chose. C'est la crise, mon cher Jacques.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ?
Franchement,
j'ai dîné à la maison.
Fabienne.
Moi, je ne comprends pas très bien toute cette fascination pour la maladie d'Alzheimer qui est actuellement sur les théâtres.
Vous êtes d'accord. Et même au cinéma un peu. Ça
et même au cinéma, oui. Je n'ose
pas dire que j'ai oublié le dernier film. Mais enfin, il y a...
c'est quelque chose qui plaît, sans doute parce que c'est de plus en plus répandu, hélas, et que ça fait peur à tout le monde. Donc là, on montre un homme, un universitaire assez sympathique.
Pas sympathique.
Il n'est pas sympathique, mais Patrick Chenet, contrairement à ce que vous disiez, enfin pour moi, est assez bouleversant, assez émouvant.
Moi aussi.
Et je l'ai trouvé vraiment d'une fragilité. Il vit l'instant comme les gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, justement. Il est dans le présent, il est dans la fragilité, il est dans la sensibilité du moment. Et je trouve qu'il est complètement juste. Mais sinon, tous les clichés sur la maladie d'Alzheimer, moi, j'en ai par-dessus la tête.
Et puis surtout, les personnages secondaires sont pas très intéressants.
Les personnages secondaires sont ridicules. La manière d'envisager la maladie est ridicule. Alors, c'est fait pour conforter les spectateurs qui ne l'ont pas, en se disant, ce pauvre type, il a la maladie d'Alzheimer. Moi, heureusement, je l'ai pas. Ça n'aide personne. Et je trouve ça presque malsain.
Oui, je retiens la prestation de Patrick Chenet dans un rôle difficile parce qu'il est sur un fil, il est entre le tragique absolu, le drame que devient sa vie et qu'est sa vie.
Tu vois ce que faisait Hirsch.
Oui, mais c'est un autre rôle.
Et
le comique, il est drôle aussi, il fait sourire Chenet. Il a des moments de grande lucidité. C'est quelqu'un qui est encore capable de souvenir de dates importantes pour le grand prof d'histoire qu'il a été. Il y a des moments où il peut être un peu cabot parce que le professeur était cabot.
On est content de ne pas l'avoir pour prof.
Il aimait plaire à ses étudiants, il aimait draguer ses étudiantes. Tout ça remonte à la surface et je trouve qu'il le joue très bien. Et puis d'un seul coup, il est celui qui ne reconnaît pas sa femme, son beau-fils, etc. Mais j'ai été tellement déçu par ce qui se passe à côté, par les personnages annexes, par sa femme qui d'un seul coup se met à partir pour un autre homme, on n'y croit pas un instant, par une jeune fille qui est censée le garder.
La seule chose un peu courageuse, c'est de montrer une femme qui part et qui abandonne. Ça, c'est assez courageux,
je
trouve.
À part la situation, elle n'a pas grand-chose à jouer. Voilà, donc pour Chenet, je trouve que ça vaut la peine d'être vu.
Armel,
la pièce n'est pas une grande pièce.
Tout a été dit. Fabienne vient de dire une chose intéressante dans la pièce, effectivement, sur ce personnage de femme, mais qui est à peine dessiné.
Oui, c'est une esquisse.
Et alors, oui, moi, je suis tombée un bon jour où Patrick Chenet était vraiment époustouflant. Et donc, pour lui, j'ai appris, si j'ose dire, au cours de la représentation, à apprécier la pièce. Mais en vérité, cette pièce, elle n'est pas bonne. Et je suis d'accord avec mes camarades. Ça suffit d'utiliser Alzheimer comme ça, d'une façon tellement facile et mécanique. Mais reste un grand acteur.
Tu te souviendras de moi. C'est donc au Théâtre de Paris. On termine avec, après la répétition. Vous avez remarqué ce soir la proximité entre le cinéma et le théâtre.
Ah oui, sans arrêt. Ouais,
programme très très bien fait. Après la répétition donc de Bergman, qui est un spectacle de Tegesta présenté au Théâtre de la Bastille dans le cadre du festival d'automne avec, et on a commencé l'émission par elle, on termine avec elle, avec Georgia Scalette qui joue, je vous le rappelle, Viola Cesario dans La Nuit des Rois aux Français et qui là est avec Franck Vercruissen dans le rôle qui lui est dans le rôle d'Henrik Vogler, ce directeur de théâtre qui, après les répétitions du Songe de Strindberg, retrouve Anna, sa jeune comédienne fétiche, dont la mère Raquel, aujourd'hui disparue, a joué il y a 23 ans le même rôle dans la même pièce, sous la direction du même Vogler, qui évidemment l'a beaucoup aimé. Et là, la particularité, c'est que Scalette joue à la fois la fille
les deux,
et la mère, joue à la fois donc Anna et Raquel. Fabienne ?
Moi, j'ai été un petit peu déçue par le spectacle. Et Dieu sait que j'aime Tegestan, qui ont toujours une manière, ce collectif flamand, qui a toujours une manière un peu brutale, radicale.
Voilà, il faut expliquer que Tegestan ne signe pas ses mises en scène. Hein, c'est le collectif qui signe.
Il n'y a pas de metteur en scène, il décide de ça
même
ensemble.
Même si là, on sent que c'est Vercruissen qui a quasiment tout fait. Hein.
Exactement.
Non, il y a eu des camarades qui ont regardé, qui ont assisté aux répétitions et qui ont donné des conseils.
Et c'est le de la bande de Tegestan aussi.
Oui, oui. C'est un spectacle de Tegestan, pas de Vercruissen.
Donc d'habitude, ils ont une manière, même le Yasmina Reza, il n'y a pas longtemps, ils ont joué art, mais ils le jouent tellement brutalement, tellement violemment, sans accessoires, vite, rapidement, que par leur rapidité, par leur jeu, ils font redécouvrir le texte différemment, ils le font dégorger. Et là, j'ai trouvé que c'était une manière un peu boulevardière.
Là vous dites ça parce que, si je vous ai lu, vous lui reprochez de mettre un canapé sur la scène.
Bah oui.
Enfin, il faut que les gens s'assiedent quelque part, c'est pas parce qu'il y a un canapé
bah oui,
qu'on
c'est
est
un canapé
boulevard.
Bourgeois. Bah mais oui, non, mais ça dépend
c'est
de...
Bourgeois,
c'est un canapé dans un théâtre.
Mais il faut bien pourquoi que, il faut bien pourquoi c'est la première fois qu'ils mettent un canapé
vous
dans un leur spectacle.
Vous allez pas vous battre pour un canapé quand même.
Mais vous voyez le sens.
jamais des chaises, des chaises, des fauteuils, d'un bric-à-brac.
Il suffit d'un canapé pour être traité de boulevardier. Non, bah, c'est incroyable.
Eh bien oui, et je trouve que Franck Vercoussen,
minaude. S'il vous plaît. Je pense qu'il y a des canapés.
Des canapés très raides. Des canapés très raides. Oui, c'est un symbole. Ils sont pas idiots, ces Flamands-là. Donc, s'ils mettent un canapé au centre de la pièce, et j'ai trouvé que Vercruissen, eh bien, il était sans doute fasciné par le talent de Georgia Scaliette, qui est éblouissante, qui est rayonnante, moi, qui m'a fait penser à Gina Rowlands dans sa fragilité de comédienne un peu torturée, fragilisée par une mère un peu castratrice et une image de mère éblouissante. Mais Vercruissen n'y fait rien à côté d'elle.
Oh. Jacques, quelques mots. Moi, j'ai été absolument ébloui, alors, évidemment par elle, ébloui par le spectacle et ébloui par Vercruissen, qui notamment
c'est un spectacle que vous avez aimé.
Ben, voilà. Il y en a un dans le
lot. Il faut se poser des questions.
Là, j'ai passé une très belle fin.
Là, notez-le. Hein.
J'ai passé une soirée formidable. Et Vercruissen... Vercruissen donne une note qui est inattendue avec Bergman, c'est l'humour. C'est que on rit à certains moments beaucoup.
Et il nous touche.
Ce qui n'est pas le cas du film. Oui,
ce qui n'est pas le cas du film. Il y a un vrai décalage et une véritable interprétation. C'est un spectacle superbe.
Armel ?
Je suis complètement d'accord avec Jacques. Et alors, il y a ce moment absolument extraordinaire, je m'en tiendrai là, où Georgia Scalier, Anna, devient Raquel sa mère. Oui. En une seconde, elle enfile un imperméable, si on peut dire.
Mais
tout change. Le visage, le corps, la manière de parler, elle est hallucinante.
Et on comprend tout de suite ce qui se passe. Le canapé ne m'a pas gêné.
Alors, c'est merveilleux.
Non, mais je suis content que la majorité du masque, pardon Fabienne, soit emportée par ce spectacle. Moi, j'ai trouvé ça très beau, d'une grande sensualité.
Vous avez remarqué comment il est sadique avec elle, en plus.
Ah oui.
Au salut, il l'a fait remonter, sauter en l'air, la pousse.
Je crois que Bergman fait quelque chose d'hyper autobiographique et parle de son trouble pour les comédiennes. C'est ça que j'aime aussi dans la pièce, c'est qu'il y a une confrontation entre son art et la réalité, qui est que le metteur en scène n'est pas que dans la raison, bien sûr, et que son cœur, pour employer un terme un peu excessif, peut le déborder par moments. Et la pièce ne dit que ça. C'est ça qui est très, très beau, ce mélange entre...
Mais je crois qu'il y a une phrase, à un moment donné, il dit « professionnel, donc sentimental
».
Pour qualifier la relation. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut diriger une actrice sans en tomber amoureux?
Et sans la désirer, parce que ça ne parle que de ça, du désir. Je trouve ça très, très sensible, sensuel et poétique.
Ça, en 1h15, vous serez reconnaissant de dire ça.
Et je rappelle qu'il y a toujours, je crois, à la Cinémathèque, je n'ai pas de fiche sous les yeux, mais cette rétrospective Bergman qui dure depuis quelques semaines et beaucoup de livres, de films qui sortent sur Bergman. Et
contrairement à Misery, aucun de nous n'a parlé d'une fidélité par rapport au film. On oublie le film. C'est autre chose, c'est un autre projet, une autre proposition.
Mais il y avait une belle mise en scène de Nicolas Lyotard il n'y a pas longtemps. C'est une très bonne pièce de théâtre.
Oui, c'est très intéressant. Et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça mièvre.
Après la répétition donc, de Bergman, c'est au Théâtre de la Bastille, c'est par le Tégestan, et c'est, je ne sais pas jusqu'à quand, mais je crois que c'est... Ça ne tourne pas beaucoup, malheureusement, je crois.
C'est jusqu'au 14 novembre.
Non, mais ça peut être repris, justement, comme c'est une coproduction avec le Théâtre Garonne, le Festival d'Automne.
À l'enthousiasme exclusif de Jacques Nerson ce soir. Allez, l'heure est venue des conseils. On va commencer avec Vincent.
Un texte d'Annie Ernaux qui est dit et joué par Marianne Bassler au Théâtre des Déchargeurs.
Mais il y a aussi Juliette Binoche qui joue du Ernaux au Théâtre de l'Œuvre.
Elle est très à la mode en ce moment au théâtre. Et là, c'est Marianne Bassler, mise en scène par Jean-Philippe Puymartin, mise en scène très sobre du texte L'autre fille. C'est ce texte où Annie Ernaux écrit à sa sœur qui est morte, qui était sa sœur aînée, qui est morte 2 ans avant sa naissance, et elle a su assez tardivement, Annie Ernaux, qu'elle avait eu une sœur, en entendant une conversation entre sa mère épicière et une cliente, et la cliente disait « elle était plus gentille que celle-là ». À propos d'Annie Ernaux, ça l'a évidemment traumatisée, comme le fait de savoir tardivement qu'elle avait une sœur à qui elle a utilisé le cartable, elle a dormi dans son lit, etc. Est-ce qu'elle n'a pas été cette fille de substitution pour les parents? Ce sont toutes les questions qu'elle pose. Et elle se demande même si elle n'est pas devenue écrivain pour raconter cette histoire et raconter cette mort. C'est très, très beau.
Donc c'est
encore une fois très sobre.
Annie Ernaux
par Marianne Bassler.
Au Petit Théâtre des Déchargeurs.
Au Théâtre des Déchargeurs.
Et si vous aimez beaucoup Ernaux, allez aussi écouter Romane Boringer au Théâtre de l'Œuvre.
Oui, qui est formidable.
Le conseil.
Alors moi, j'ai un double conseil. Très rapidement, un texte étrange de Amanda Sterz, Le vieux juif blonde.
Ah, mais qui est une reprise.
Qui est une reprise, mais qui est mise en scène par un homme exceptionnel qui est Volker Schondorf, le réalisateur, et joué par une jeune femme que je ne connaissais pas du tout, qui a 23-24 ans, qui s'appelle Camille Raza. Et donc c'est un monologue et ça fait tout d'un coup comprendre le texte.
Et c'est au théâtre des Mathurins.
Mais j'ai un spectacle que là je recommande mais très chaudement et que je vais retourner voir évidemment. C'est Ex Anima de Bartabas.
Nous irons ensemble, Armelle.
Qui reprend, ouais, qui a repris le 9 novembre.
Qui arrive de Caen.
Voilà, qui arrive de Caen.
Qui reprend à Aubervilliers.
Qui reprend à Aubervilliers pour tout l'hiver comme il le fait toujours et puis ensuite ils partiront en tournée dans toute la France. Moi, j'ai adoré ce spectacle lorsque
magnifique
je l'ai vu l'an dernier.
Magnifique spectacle de chevaux sans cavalier.
C'est donc les chevaux sans cavalier qui travaillent tout seuls. Et j'ai interrogé Bartabas en lui disant « Mais comment tu as fait ?» Il a fallu les refaire, retravailler, répéter, tout ça. Il me dit « Non, pas du tout. Ils sont comme des danseurs. Quand ils sont dans le contexte, ils retrouvent exactement ce qu'ils avaient inventé parce que c'est fait à partir des jeux des chevaux. C'est réglé, évidemment, par Bartabas. Mais après... Allez-y, les enfants, ils vont tout seuls et c'est magnifique.
C'est merveilleux. Oui. Mon conseil, c'est de tout simplement de relire chez Grasset tout l'œuvre, pièce, poème de l'immarcessible René de Obaldia, qui a eu 100 ans, qui a eu 100 ans le 22 octobre et qu'on a fêté. D'ailleurs, Fabienne y était avec moi le 29 octobre au théâtre La Bruyère. Donc voilà, bah, vous relisez Du vent dans les branches de Sassafras, Monsieur Kleps et Rosalie, exobiographique, et ce sont ses mémoires. Et bien sûr, mon préféré, ce sont les Innocentines avec l'inoubliable, le jet gélatineux Génier dans le jasmin. Le conseil de Fabienne.
Deux très rapides. La reprise de Sopro, ah oui, qui est un spectacle qu'on a vu à Avignon en 2017, qui est le spectacle de Thiago Rodriguez au Théâtre de la Bastille jusqu'au 8 décembre, qui est Thiago Rodriguez, qui dirige le Théâtre National de Lisbonne, a fait un spectacle autour de la souffleuse. La souffleuse dans un théâtre en ruine, qui raconte ce théâtre qui meurt et qui a tous les fantômes des comédiens disparus qui lui parlent. C'est magnifique. C'est tout simple et magnifique. Et puis une installation à Bobigny de Rimini Protocole autour de la mort et de ce que les gens souhaitent laisser à ceux qui leur survivent. C'est une installation en 8 pièces. C'est magnifique.
Et enfin, le conseil de Jacques.
Eh bien, c'est un spectacle qui s'appelle Ich bin Charlotte, qui se joue au Poche Montparnasse. C'est une pièce américaine, mais qui raconte l'histoire d'une transsexuelle allemande de l'Est, qui a d'abord réussi à survivre à la période nazie et qui a traversé aussi la période communiste. Et après, à la chute du mur, elle est devenue une sorte d'idole de la communauté LGBT, jusqu'au jour où on a découvert que c'était une donneuse et elle avait dénoncé pas mal de copains et copines à la Stasi. À ce moment-là, elle a quitté l'Allemagne. Mais enfin bon, mais il y a un comédien remarquable qui s'appelle Thierry Lopez, admirablement dirigé par Steve Suissa, qui joue le rôle de Charlotte et les 30 personnages autour. C'est splendide.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume. franceinter.fr. Merci beaucoup Fabienne Pascoe, Armelle Elio, Vincent Josse et Jacques Nerson pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam ce soir à la technique au Charles Trenet. Je les remercie Claude Niort, Nicolas Depagraf, Samuel Razzano. La réalisation et même la mise en scène était signée Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 15 novembre. Je vous attends très nombreux au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.